les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre magazine Solidarité envers les sans-papiers, deux points, démonstration de force ou de trop. C'est le thème interrogatoire qui va répondre notre invité. Il s'agit des Onzoumane Sissoko, porte-parole de la coordination parisienne de sans-papiers. Bonsoir Sissoko.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous à Aubervilliers. Samedi 30 mai, la ville de Paris a connu une ambiance particulière, des confinements progressifs arrimés avec une forte mobilisation qui a réuni d'un côté sans-papiers migrants, association d'aide aux migrants, et de l'autre gilets jaunes, quelques élus. Combien de personnes à peu près ont pris part à cette manifestation ?
D'abord, c'est difficile de quantifier le nombre de manifestants le 30 mai dans la mesure où les camarades ont été bloqués de partout. D'abord, à commencer par Montreuil. Montreuil, c'est une communauté, on peut dire que Montreuil, c'est le 21e arrondissement de Paris. Et en même temps, c'est la deuxième grande ville du Mali. Entre guillemets, il y a 4 ou 5 grands foyers où il y a eu beaucoup de mobilisation. Ils étaient au minimum 2000 personnes sur tous les rames de métro de porte de la mairie de Montreuil jusqu'au métro Charonne. Ils ont été bloqués et la RATP, en complicité avec la police, a bloqué la ligne 9 complètement pendant plusieurs heures. Donc ils étaient obligés de sortir pour marcher à pied et ils les ont bloqués au niveau de Charonne et les obligés à retourner vers Montreuil. Donc c'est 2000 personnes en moins. Ensuite, le fait que nous aussi, on était partagés entre Madeleine et Opéra, donc ça a diminué la force des policiers. Ils s'attendaient que, grosso modo, on soit autour de 400 personnes. Et au final, on était plus de 10 000 personnes. Donc, ils n'avaient pas la force nécessaire pour empêcher ce groupe-là de manifester pacifiquement, surtout, ce qui est important à souligner. Donc, au final, ils nous ont laissé faire. Donc, de Madeleine, on est venu rejoindre les camarades à Opéra. Ensuite, on a marché sur le boulevard du 4 septembre jusqu'à Arrêt Métier et en passant par Sauge, comment dirais-je, Rumeux, Sébastopol, Strasbourg, Saint-Denis jusqu'à la République. Donc, c'était l'itinéraire qu'on avait déposé en préfecture depuis le 9 mai, c'est-à-dire plus de 3 semaines avant la manifestation, que la préfecture n'a pas eu d'autre choix que de refuser cette manifestation 72 heures seulement avant la manifestation.
Et pourquoi le choix de tous ces lieux ?
Alors, au départ, on voulait respecter la distanciation par rapport au confinement, les distances de 1 mètre là. Et puis, on a demandé à chacun de venir masquer, tout le monde avait respecté ça. Donc, les manifestations classiques ont donné un point de départ et un point d'arrivée. Mais cette fois-ci, on a donné 4 points de départ, c'est-à-dire Madeleine et Opéra pour les collectifs des sans-papiers, de Opéra à Richelieu pour les organisations, associations très proches des militants des sans-papiers, les foyers et aussi les familles victimes de violences policières. Ensuite, de Richelieu menant à Strasbourg-Saint-Denis, c'est les organisations syndicales. Donc, comme la préfecture a refusé la manifestation, on a réduit. Au lieu de 4 bouches de métro, on a donné 2 bouches de métro, Madeleine et République, en ce sens que, Madeleine et Opéra, en ce sens que ça fait plus de 800 mètres. Donc, raison pour laquelle on a fait le choix de faire ces deux rassemblements, parce que c'est aussi diviser la force, les forces de police, pour les partager entre les deux groupes. Et il y a un autre groupe qui est sorti à Montreuil qui était beaucoup plus important. Les gens ont été bloqués à la gare de Lyon, à d'autres gares, à Saint-Lazare, partout, les grandes villes, les grandes gares de Paris qui convergent vers Madeleine ont t'es stoppé des sans-papiers.
Vous-même, vous l'avez dit que la préfecture de police de Paris avait interdit cette manifestation, mais vous êtes quand même entêté à le faire. On a vu les images passer à travers les réseaux sociaux, à la télévision, cette forte mobilisation. Il y avait des gens qui avaient des masques, mais malheureusement, la distanciation physique n'a pas été respectée. Vous donnez finalement raison à la préfecture.
Mais non, on ne donne pas raison à la préfecture. Personne ne peut respecter les distanciations à la hauteur de 10 000 personnes.
Bah d'où il ne fallait pas alors organiser une marche en cette période où le déconfinement n'est pas total.
Mais vous ne pensez pas? Le pays de fou est ouvert, il y a 2 millions de personnes qui vont visiter là-bas. Vous imaginez que les gens ne vont pas se retrouver nombreux, plus de 10 000 personnes en même temps. Vous voyez, les mosquées sont ouvertes, les églises sont ouvertes, les centres commerciaux où il y a beaucoup de gens qui côtoient sont ouverts. Le 11 mai, quand le déconfinement a commencé, on était plus de 10 000 personnes à la gare du Nord. Vous pensez que dans les lieux fermés, il ne peut pas y avoir de contamination? Dans les mosquées, dans les églises, il ne peut pas y avoir de contamination, alors que c'est une manifestation de rue. Donc c'est une décision politique, ce n'est pas une décision sanitaire. L'arrêté d'interdiction de manifestation de sans-papiers, c'était une décision politique. Ce n'est pas une décision pour dire que c'est un lieu où on peut contaminer les gens. Non. Tout le monde était masqué, on était dans la rue. Toutes les études montrent que la contamination, elle est beaucoup plus difficile quand on est dehors que quand on est dans le lieu avec l'homme.
Et finalement, quel est le message principal que les organisateurs ont voulu faire passer?
Alors, le message, elle est très claire. Parce que depuis le début du confinement, tout le monde était d'accord, que ce soit institution, organisation, regroupement de personnes. Tout le monde est d'accord que les infirmiers étaient en première ligne pendant ces 2 mois de confinement. Et pour nous, parmi nos camarades, il y en a qui sont en première ligne avec les infirmiers. Parce qu'ils sont brancardiers. Quand on est brancardier, ça veut dire qu'on se mélange avec les infirmiers dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Quand on est agent de nettoyage dans les hôpitaux et dans les EHPAD, on a vu les images sur BFM TV, ils donnent la parole aux gens qui nettoient les hôpitaux et les EHPAD. Donc ces gens-là sont en première ligne au même titre que les infirmiers. Deuxièmement, tout le monde était d'accord que les agents d'entretien des autres endroits qui sont dehors dans les immeubles, ils sont en première ligne. Les éboueurs, ils sont en première ligne. Les caissières des grandes surfaces qui permettent à toutes ces populations de vivre pendant ces périodes-là sont en deuxième ligne. Donc pour nous, on a beaucoup discuté pendant le confinement. Est-ce que c'est le moment de faire une grève ou c'est le moment d'attendre le début du déconfinement pour enclencher des mobilisations? On a dit que ce n'est pas une bonne image pendant les 2 mois de confinement de faire une grève, même si la plupart des salariés qui sont dans les EHPAD, dans les hôpitaux, qui sont en situation régulière, qui sont français, ils ont utilisé le droit de retrait pour ne pas travailler pendant ces périodes-là. Donc ce sont les sans-papiers, les migrants précaires qui ont été utilisés pour combler le déficit de main-d'œuvre en France pendant ces 2 mois-là. Donc si on est au début du confinement, il est important de montrer cette mobilisation pour demander au gouvernement français des comptes. Les comptes, c'est quoi? Ils ont pris des décisions par rapport aux chômeurs. Ils les ont mis tous au chômage partiel. Ils ont pris des décisions par rapport aux entreprises. Ils vont les aider. Quelle décision a été prise pour les gens qui sont en deuxième ligne? C'est-à-dire, après les infirmiers, c'était nous. Rien. Donc pour nous, il est temps de sortir, de mobiliser pour montrer à la France que les initiatives que le gouvernement a prises sont insuffisantes. Il faut régulariser tous les sans-papiers. Donc tous les prétextes du Front National ou du Rassemblement National ne tient plus route. Pourquoi? Parce que les frontières sont fermées. Il n'y a pas un appel d'air. C'est le moment de régulariser tous les sans-papiers.
Justement, pendant la marche, vous avez eu à prendre la parole. Vous avez dit vous-même que vous avez attendu le déconfinement progressif pour vous engager à faire des manifestations de rue, ou sinon les Français vont vite oublier. Nous allons écouter cet extrait.
« grève pendant cette période-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le droit de retrait, ceux qui sont en situation régulière. Mais c'est selon les sans-papiers qu'on compensait ce déficit au niveau du travail. Donc aujourd'hui, on a tenu bon pendant ces deux mois-là, dans des conditions très très difficiles. La France doit payer, nous payer, en régularisant tous les sans-papiers.
Alors, Sissoko, ce n'est pas la première marche que vous organisez, du moins c'est la première après le déconfinement, si je peux le dire. Il y a trop de marches qui s'organisent, mais rien ne change qu'on se le dise. La question, pourquoi vous ne changez pas des fusils d'épaule ou carrément des stratégies pour faire votre revendication?
Vous avez une proposition à nous faire? Parce que le monde où on est aujourd'hui, et ces grandes puissances n'ont pas peur des armes, ils n'ont pas peur de l'argent. Tout ce qu'ils ont peur, c'est des mobilisations. Donc, s'il y a d'autres propositions alternatives qui permettent qu'on soit écouté et qu'on a la libre circulation et d'installation de tout le monde partout dans le monde, c'est pas des gaietés de cœur qu'on soit manifesté toutes les semaines. Mais nous, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui permette de laisser tomber cette sorte de mobilisation pour demander des droits pour tous, tant qu'il n'y a pas un réveil de conscience de la part de tout un chacun. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec ce début de confinement pour dire que les deux mois de confinement, il s'est révélé quelque chose dans le monde entier. C'est que les gens qui gagnaient 100 000 euros par mois, des fois plus, ont vu pendant ces deux mois-là qu'ils sont inutiles, en quelque sorte. Ils ne peuvent pas sauver des vies, ils ne peuvent pas permettre à la France de fonctionner pendant ces deux mois de confinement. Donc on a vu que ce sont des métiers qui coûtent cher, mais en même temps, dans des conditions difficiles comme la pandémie, ils sont inutiles. Donc actuellement, on est dans une situation où chacun doit prendre conscience qu'il faut changer les choses. Et changer les choses, ça part pour que on efface tout. On efface tout. Quand je dis effacer tout, c'est effacer la loi CESEDA, le code d'entrée et le séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Ça, c'est le premier. Et que tout le monde ait sous terre la même égalité avec son passeport malien, tunisien, ivoirien, j'en passe, chinois, chacun puisse aller où il veut, s'il a le moyen, entre guillemets, en tout cas, de se déplacer et de survivre dans ce pays. Donc, voilà, le combat, c'est un peu ça. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là, donc moi, je ne vois pas aujourd'hui une alternative aux mobilisations, une alternative aux manifestations.
On va marquer une pause musicale.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'ils te conduisent à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Sissoko, nous sommes en pleine crise économique qui a déjà frappé le monde entier. Et je ne pense pas que la priorité de la France, c'est de régulariser les sans-papiers. Vous le savez comme moi, que la régularisation des migrants passe notamment par l'asile. À part l'asile, il y a l'admission exceptionnelle au séjour, ou soit le regroupement familial. Alors parmi les personnes migrantes que vous défendez, n'y a-t-il pas de celles-là qui entrent dans ces critères ?
Ben, vous pensez que vous croyez aux critères ? Le critère, c'est des fabrications politiques. Quand on regarde les chiffres-là, dans le monde entier, il y a plus de gens qui meurent de faim, plus que des guerres. Mais pourquoi quelqu'un qui meurt de faim, il se déplace, il fuit la famine ? Il n'est pas reconnu comme réfugié. Pourquoi quelqu'un qui fuit son pays parce qu'il y a la sécheresse,
il y a... Et si le récit, son récit n'est pas bien relaté ?
Non, pas question de récit. Même si c'est relaté comme il faut, les organisations internationales reconnaissent que ceux qui fuient le pays pour des raisons de guerre, parce que ces grandes puissances-là, ils sont responsables des guerres qui sont dans le monde. Donc quand tu te déplaces, aller dans un pays pour demander l'asile, pour des raisons de guerre, c'est reconnu. Mais si vous vous déplacez parce qu'il y a la famine chez moi, parce qu'il y a la sécheresse qui arrive pour le dérèglement climatique, ils considèrent ça comme des migrants économiques. Donc, ça ne passe pas. Tu peux aller voir un intellectuel au sommet de tout qui fait votre courrier de demande d'asile, ça ne marchera pas. Donc, là, c'est une fabrication politique pour empêcher certains de se déplacer dans le monde entier, que moi, je combats.
Alors, vous le combattez, et ce combat, vous l'avez débuté depuis quand, ici en France ?
Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le mouvement des sans-papiers, voire un peu plus, mais avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui, ça fait 18 ans. Si je compte tout ce que j'ai fait en tant que sans-papiers d'abord, avant d'avoir les responsabilités, c'est au-delà de 20 ans.
Et au-delà de 18 ans ou de 20 ans, qu'est-ce qui a déjà marché ? Ou avez-vous obtenu gain de cause pour certains migrants ? Ils sont régularisés aujourd'hui ou bien eux tous sont toujours dans la même situation?
Mais non, ça passe. C'est comme la vie. Et moi, quand j'ai milité en 2000-2001, les gens qui étaient à mes côtés, la plupart sont partis. Il y a quelques-uns qui sont restés dans la lutte aujourd'hui pour accompagner la nouvelle génération qui est là. Moi-même, ça fait combien d'années j'ai ma double nationalité. Je suis même candidat sur une liste le 28 juin prochain. Ça veut dire qu'il y a des choses qui...
Candidat en tant que...
En tant que candidat politique. Je serai peut-être conseiller dans 3 semaines, j'en sais rien, mais voilà quoi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font. Mais ce qui nous a manqué pendant ces 20 ans-là, on n'a pas réussi à régulariser tous les sans-papiers. Et la France n'a pas fait ça depuis 40 ans.
Et juste à Paris, il y a combien de sans-papiers ?
Il y a plus de 200 000 sans-papiers en Île-de-France.
Et aujourd'hui, l'exemple de l'Italie vous inspire-t-il ?
Ben justement, ça nous inspire parce que même si c'est conditionné à des critères, même si c'est provisoire, moi je préfère être dans un système provisoire que d'être dans un système où on ne te reconnaît pas. Et alors que tout le monde est d'accord que pendant ces 2 mois-là, on était en deuxième ligne. Comment on peut utiliser ? Il n'y a que la France qui peut nier ça. C'est-à-dire reconnaître le travail des gens, mais en contrepartie, on ne les régularise pas.
Et si je pose cette question parce que l'Italie avait annoncé avec pompe la régularisation de 600 000 sans-papiers dans le secteur de l'agriculture, mais quand l'Italie l'a commencé, on a vu que ça s'est fait sans bruit. Il y a eu il y a quelques sans-papiers qui ont obtenu des titres de séjour que de 6 mois et qu'ils obtiennent, selon nos sources, ils obtiennent 4 euros l'heure dans leur travail. Est-ce que ce n'est pas pénible? Est-ce que, apparemment, les sans-papiers ne sont pas sortis de l'auberge?
Mais ça, c'est un autre combat syndical qu'il faut que chacun mène au niveau de son pays. Parce que l'exploitation de l'homme par l'homme, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, il est arrivé à ce moment où on peut voir dans des entreprises où le SMIC est payé à 1 000 euros, où le PDG est payé 100 fois plus. Donc ça c'est un système qui existe, mais qui s'aggrave au fur et à mesure. Et à mon avis, ça c'est une lutte syndicale qui est, à ma connaissance, doit être portée par d'autres personnes. Quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on laisse les gens circuler comme ils veulent. Si on ne veut pas les régulariser, on les reconnaît avec le document d'origine de son pays, et c'est tout.
Et pendant le confinement, est-ce qu'il y a eu des sans-papiers qui ont été contaminés par le Covid-19?
Ce que je disais dans l'une de mes interventions, je ne sais pas si vous avez cet enregistrement, je disais que pendant le confinement, les sans-papiers ont été le plus exposés parce qu'ils sont concentrés à 90% dans 2 ou 3 endroits. Le premier, c'est les centres de rétention administrative. Les centres de rétention administrative, c'est comme si tu rentres dans un parc de bétail. Ils sont tous dans le même endroit et il y a des dortoirs la nuit que les gens, ils sont plusieurs. Moi, j'ai fait les centres de rétention. J'ai partagé des centres de rétention avec 12 de personnes où on respire le même air. Donc ces gens-là, il suffit qu'une seule soit contaminée, que tout le monde l'ait. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens qui habitent dans les foyers, ils sont nombreux. J'ai eu des témoignages bouleversants qui sont vraiment difficiles à supporter. Ces témoignages, ils disent quoi? Ils disent que nous, on est 2 à se partager un lit comme ça, dans un foyer. Lui, il travaille le jour, l'autre travaille la nuit. Donc quand ça va, il n'y a pas de confinement, c'est bon. Parce que lui, il est là dans la journée, il dort. L'autre, il vient la nuit, il dort pendant que l'autre travaille. Mais imaginez ces 2 personnes confinées au même moment sur un lit comme ça là. Comment ils vont vivre? Ils vont passer les 2 mois assis, l'un à côté de l'autre, et sans compter les gens qui sont 4 ou 5 dans 4 mètres carrés. Ici, c'est 5, 6 mètres carrés. Mais dans 4 mètres carrés, imaginez 4 ou 5 personnes. Comment on peut respecter les distanciations? Il suffit qu'une personne soit nettoyeur d'un EHPAD ou d'un hôpital, ils amènent le virus, tout le monde est contaminé. Donc, raison pour laquelle on s'était dit qu'à la fin du déconfinement, il faut agir. Il faut pousser le gouvernement à régulariser les gens pour que les gens puissent se faire tester massivement, pour que les gens puissent prendre des précautions de protection, sinon ce sera une bombe,
bombe sanitaire.
Merci. Donc, c'est la raison pour laquelle on a appelé qu'à la fin du confinement, si le gouvernement ne prend pas des mesures envers les sans-papiers, c'est une bombe sanitaire. Parce que moi-même qui sais, qui est en situation régulière, quand j'ai eu des tests, les premiers symptômes de fièvre, j'ai mis 10 jours pour avoir une ordonnance pour aller me faire tester. Imagine celui qui n'a pas de papier. Vous pensez qu'il va se casser la tête pour faire ça? Ils ont peur d'aller se faire tester. Donc c'est pour ça que nous, on se dit que, ils étaient les plus précaires, non seulement en termes de logement, non seulement en termes de lieu de travail, et en même temps avec le confinement, tous les gens qui peuvent se mettre au chômage partiel ou pas partiel, ou qui ont la possibilité syndicale de se mettre en retrait parce que c'est risqué de travailler dans le virus, se sont mis en retrait. C'est les sans-papiers qui ont travaillé pendant cette période-là. Donc, raison pour laquelle je disais qu'on était le plus exposé et les Français ont reconnu ça. Les Français ont reconnu ça, c'est le gouvernement qui n'a pas reconnu. Parce que le gouvernement, jusqu'à présent, n'a rien fait pour que cette situation puisse s'arranger en prenant une décision sage de les régulariser massivement.
Mais la priorité actuelle, c'est la santé. Est-ce que vous croyez en votre combat?
La santé, la priorité, c'est la santé. Mais quand les gens sont exposés dans une situation qu'on a vue malgré leur gré, parce que certains me disent qu'il a peur dans le métro, il est tout seul dans le métro, et des fois il a peur d'aller bosser, des fois il a peur de venir. Mais il n'a pas le choix, il part quand même. Parce qu'il faut qu'il vive, il faut qu'il paye ce loyer-là, 600 euros. Et il n'a pas droit à l'accès au chômage partiel, il ne peut pas se mettre au chômage normal. Donc il n'a pas d'autre choix que d'aller travailler. Même si la santé est prioritaire, ben, entre guillemets, c'est Dieu seul qui les sauve. Mais ils sont obligés de partir. C'est ce que moi je dis. Je dis, mais je préfère rester en bonne santé que d'avoir du papier et d'être dans la merde. Pour moi, la santé n'a pas de prix. Mais quand tu dis ça à un sans-papier, aujourd'hui, tout ce qu'il pense, c'est comment faire pour que je puisse être régularisé en quelque sorte. Bon, la plupart sont jeunes, 18 à 28 ans. Le moyen d'âge aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 20 ans où les gens ils viennent à 30 ans. Enfin, aujourd'hui, les gens ils viennent mineurs. La plupart, quand ils sont âgés, c'est autour de 22, 25 ans. Donc, moi, j'ai fait le calcul, la moyenne d'âge parmi les camarades sont autour de 18 à 22 ans. Et les plus vieux sont autour de 28 ans. Donc, à cet âge-là, ils ne pensent pas être tombés malades malgré la situation endémique qu'on est en train de traverser. Et ça peut se comprendre. Tout ce qui est dans leur tête aujourd'hui, c'est comment trouver le papier et comment trouver du travail.
Nous allons à présent marquer une autre pause musicale.
Fuego.
Parmi les marcheurs ces jours-là, des travailleurs sans papier qui ont eu à parler, à donner de la voix, à expliquer les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ils ont vécu dans le passé. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez vos camarades en train de se plaindre?
Mais moi, ça me fait chaud au cœur, raison pour laquelle j'ai toujours garder un lien avec cette lutte-là, parce que dans ma philosophie de choses, je me dis que la souffrance que moi j'ai fait en France, c'est-à-dire rester 14 ans sans papier, je ne souhaite pas ça à mes jeunes frères et ni à nos enfants. Et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de traverser la même souffrance que j'ai eue. C'est-à-dire 14 ans sans papier, fait de la prison pour défaut de papier, fait de tous les centres de rétention de l'Île-de-France pour défaut de papier, je ne le souhaite pas. Raison pour laquelle j'ai gardé toujours le lien avec ce mouvement pour faire changer les choses. Et c'est grâce à notre mouvement, il y a 14 ans pour être précis, c'est-à-dire en 2015, on a discuté avec les syndicats pour dire que même si on est sans papier, on a des droits. Les droits, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on vient de dire, les éboueurs, les agents d'entretien et tout ça, là, qui étaient souvent en première ligne, c'est le travail qu'ils font. Et ce travail-là, on peut pas l'assimiler au papier. Non, c'est pas le papier qui travaille, c'est la personne qui a travaillé. Donc, s'il y a des choses qui sont pas normales, il doit être réparé. Donc, il y a 15 ans, on a discuté avec les syndicats, on est sorti au bout de 2 ans de discussion avec 4 pages. 4 pages qui résument les droits des travailleurs. Et quand on dit droit des travailleurs, c'est tous ceux qui suent. C'est pas que tu as papier, bon papier ou pas papier. Non. Quand tu travailles, c'est ça. Le droit, ça doit appliquer à tout le monde. Donc c'est ça qui a amené aux occupations d'entreprises où aujourd'hui, quand quelqu'un vient en France depuis 3 ans et qu'il a eu la chance d'avoir une entreprise qu'il a embauchée, au bout de 3 ans, il peut obtenir sa régularisation par le travail.
Nous allons, si vous le permettez, nous allons revivre ce qu'a été l'ambiance le samedi 30 mai.
Qui sont des travailleurs sans papier, et à partir du moment que cette pandémie est venue, et ils sont restés à côté. Ils ne sont pas payés, ni quoi, ils sont dans le foyer et tout, ils n'ont pas de ressources, de quoi à vivre et tout. Et bien voilà, ils sont restés bloqués totalement, que ce soit à vivre ou quoi que ce soit, côté santé, côté, ils sont restés à côté. Voilà, oubliés même, je vais dire.
Malheureusement, nous sommes là, dans ce pays, la France, comme on peut dire. Donc vous voyez tous les mondes qui est mobilisé. Bon, là, en gros, c'est pour notre régularisation. Parce qu'on vit en France depuis des années. Il y en a qui vivent ici pendant 10 ans ou 20 ans, sans papier, sans rien du tout. Et surtout, des sanitaires, tout ça. Donc nous sommes quand même dans une situation vraiment très, très difficile.
Sissoukou, en 14 ans, sans papier, mais comment vous êtes arrivé à être régularisé après 14 ans? Ça s'est passé comment pour vous?
Difficilement, mais j'ai tenu bon. Je viens d'expliquer un peu que tout a commencé, les brutalités avec la police a commencé en 97, quand il y a eu ce fameux attentat à Saint-Michel, les anciens islamistes du GIA là, d'Algériens qui a posé des bombes à Saint-Michel. Donc moi, je travaillais toujours ici, là, à la Plaine Saint-Denis. Le Stade de France était en travaux. Il y avait la Coupe du Monde qui devrait arriver en 98 à Paris. Du coup, mes soucis ont commencé. J'ai eu plusieurs interpellations, des gardes à vue, de rétention, de prison même, pour des faux papiers. Et puis après la fin de la prison en 2001, je me suis complètement engagé dans la lutte des sans-papiers. Et depuis lors, je n'ai pas cessé. J'ai même eu des interdictions de séjour parce que j'ai refusé l'avion. On m'a embarqué vers Bamako en 1997 où j'ai refusé l'avion. Je suis resté dans l'avion jusqu'à 15 minutes avant le vol. J'ai refusé, je suis resté 14 jours en rétention. À la fin, ils n'ont pas pu m'expulser parce que j'étais un petit peu engagé à cette période-là sans avoir de responsabilité. Donc j'ai contourné toutes les procédures pour me maintenir ici. Et j'ai même demandé la grâce auprès du ministre de l'Intérieur de l'époque. À cette époque, c'était un certain Sarkozy qui était le ministre de l'Intérieur. Son directeur de cabinet m'a gracié en 2005. La préfecture a attendu 2 ans après pour exécuter ce grâce matériellement en termes de papier pour me ficher, quoi, en quelque sorte. Parce que je milite, je mobilise les gens. Donc c'est
Vous êtes un homme tenace.
Ouais. Voilà. Donc, mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Et finalement, en 2007, j'ai eu ma régularisation et qui est devenue officielle en 2008 avec l'abrogation de l'interdiction de séjour. Et en 2015, j'ai obtenu ma double nationalité. Donc, je suis prêt à tourner la page, mais j'attends quelqu'un qui peut prendre le flambeau. C'est pour ça que je suis un peu à côté des jeunes.
Le travail de sans-papiers rime avec l'exploitation. Comment voyez-vous l'avenir de votre combat?
Ben, l'exploitation, c'est un truc qui a commencé d'abord depuis le temps de l'esclavage. Donc l'esclavage a été aboli. En abolissant l'esclavage, ils ont trouvé le moyen de créer le capitalisme, en quelque sorte, pour que quelqu'un qui est plus riche que l'autre ou qui est plus intellectuel que l'autre, il essaie de le faire travailler, ainsi de suite. Donc ça continue jusqu'à nos jours. Et même après régularisation, on ne peut pas échapper à cette réalité capitaliste. Donc ça, c'est un combat syndical, et ça, c'est un combat jusqu'à la fin de nos vies, parce qu'à tout moment, on peut se faire exploiter. Vous voyez? Mais l'exploitation des sans-papiers, c'est quand même le summum de toutes les exploitations aujourd'hui, qui peut être assimilée à de l'esclavage, parce qu'il y a même des gens qui sont exploités jusqu'à ce qu'ils n'arrivent pas à trouver des salaires. On les fait travailler pendant plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Nous, on a pas mal de dossiers qu'on défend au prud'homme, aux côtés des sans-papiers. On fait des manifestations devant l'entreprise, on bloque l'entreprise de fonctionner pendant plusieurs heures. Et le patron n'a pas d'autre choix que de négocier avec nous pour qu'il puisse payer les arriérés de cette personne, sinon on ne va pas le laisser tranquille. Voilà, donc c'est tout ça, c'est la force du mouvement. Le fait d'être ensemble, on a dit une seule personne, mais rien du tout. Même si vous êtes 100, 200, vous pouvez bousculer beaucoup de choses. Et ça, la lutte de la CSP a montré ça. En 20 ans, on a réussi à faire pas mal de choses, même si on a échoué à la régularisation globale de tous les sans-papiers.
Votre action du 30 mai n'a pas seulement été saluée par tout le monde, et en consultant la page Facebook de la Marche de Solidarité, j'ai pu lire des commentaires. J'ai repéré quelques-uns que je vais regrouper. Je cite « Je ne veux pas vous démoraliser, mais vous n'aurez jamais gain de cause et de cette façon, vous rendez service à l'État, car vous vous regroupez tous et toutes pour la majorité sans papier au même endroit et viendra un moment où ils procéderont, donc ils, je pense qu'elle parlait, donc ça devait être elles procéderont, les forces de l'ordre, à des interpellations massives afin de vous placer en centre des détentions et vous expulser. » Fin de citation. Qu'en pensez-vous?
Ben, c'est ce que la préfecture m'a dit. Avant d'aller le 30 mai, j'ai déposé la déclaration le 9 mai. 2 semaines après, autour du 27, quand ils ont refusé la manifestation, on a saisi le référé. Tous les jours, du 27 au 30, je reçois 2 ou 3 coups de fil par jour de la police. Ils disent qu'ils vont se préparer pour interpeller tout le monde, jusqu'aux dernières personnes. Mais quand, parce qu'ils tablaient sur 400 personnes, parce que nous, depuis 18 ans, on s'est réunis à la place de la République, des fois on est 100, 150, ils pensent que comme ça, c'était mobilisation beaucoup plus importante, qu'on va être au-delà de 200, 400 au maximum. Et au final, on était plus de 10 000. Est-ce qu'ils ont, la France a la possibilité d'interpeller 10 000 personnes aujourd'hui pour les mettre dans des centres de détention pollués par le virus? Aujourd'hui, celui qui dit ça là, est-ce qu'il pense que, il pense que la France est capable aujourd'hui d'arrêter 10 000 personnes et les enfermer?
Vous avez annoncé le prochain rendez-vous pour le 20 juin, vous maintenez cette date?
Si, le 20 juin, on a choisi exprès parce que le gouvernement a parlé, je ne me souviens plus, c'était la veille de notre manifestation, le jeudi, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 27 ou le 28. Le gouvernement a parlé de diminuer un peu les critères du déconfinement parce qu'on est rentré dans la troisième semaine du déconfinement en allégeant certains trucs, mais pas les manifestations de 10 personnes. Mais pour le ministre de l'Intérieur, il peut se permettre de manger des huîtres dans une plage avec 20 personnes. Sans masque, sans distanciation, ce n'est pas un problème. Donc nous on ne considère pas ça comme des responsables politiques. Un ministre doit donner des exemples. Okay? Donc on a refusé d'annuler la manifestation parce qu'on a la forte conviction que si on attend la fin totale du déconfinement, on ne sera plus entendu. Les Français vont tourner à autre chose alors que le soir du 20 juin, parce que l'état actuel de la situation, ça court jusqu'au 22 juin. Donc peut-être ils vont parler le 18, mais ça va s'appliquer après le 22 juin. Donc nous, on fait la manifestation comme on l'a fait le 30 mai. C'était dans le même contexte. Si on dépose la déclaration, ils vont refuser à nouveau, mais on sera dans la rue à nouveau.
Donc les auditeurs et auditrices qui nous suivent doivent retenir cette date du 20 juin. Pour les personnes qui veulent vous rejoindre.
En tout cas, pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre, cette manifestation du 20 juin est une particularité très importante parce qu'on est en train de converger avec l'intersyndicale. Les discussions avancent beaucoup pour qu'on soit tous ensemble le 20 juin. Et aussi, on va à la manifestation d'une convergence qui a été appelée par toutes les associations qui ont fait des courriers pendant ce confinement pour demander au président et au gouvernement de fermer les centres de rétention administratifs et de régulariser les sans-papiers qui n'ont pas écouté. Donc, on a une première manifestation le 13 juin. Là, on sera là aussi pour mobiliser ce corps associatif. Ensuite, le 16, on sera dans la rue avec les infirmiers pour dire que vous êtes en première ligne, nous en deuxième ligne. Donc, on a le même combat. Vous voyez ? Et aussi, sans compter les familles victimes de violences policières, dont l'association qui est autour d'Adama Traoré, là, ils font partie de la marche de solidarité. Parce que dans la marche de solidarité, il y a trois pôles. Le pôle numéro un, c'était le mouvement des sans-papiers, les foyers et les familles victimes de violences policières.
Nous allons boucler cette émission par cette question. Vous-même, en faisant une évaluation personnelle, ou bien si vous avez eu à faire une évaluation collective, vous, les organisateurs de cette marche, il s'est agi d'une manifestation de force ou de trop?
De force ou de trop, j'en sais rien, mais pour moi, pour nous, c'est une manifestation normale. Et parce qu'il n'y a rien de force dedans, parce que tout a été clair dès le 9 mai, on a déclaré, on a avancé des arguments que tout le monde viendra masquer. Si on n'est pas trop nombreux, on va essayer des distanciations, même si le gouvernement ne respecte pas, même si le président ne respecte pas les distanciations, nous, on va le faire. Donc, il n'y a rien de brutal dans ce qu'on a fait. Et du fait que les gens sont en colère, ça, c'est inscrit dans la Constitution. Ce petit décret entre politiciens pour empêcher certains de s'exprimer, nous, on ne compte pas ça. Ce qui compte chez nous, c'est ce qui est marqué dans la Constitution française, le droit de manifester. Des décrets qui interdisent les gens au-delà de 10 personnes, ça ne nous concerne pas.
Et vous croyez peut-être en quelques secondes que la politique migratoire française changera un jour?
Ben, cette jeunesse qui est en train de monter là autour de tout ce qui se passe autour des violences policières et les familles victimes de violences policières, cette jeunesse là, ils vont monter. Ce qui est en train de se passer en Amérique là, si ils changent pas de politique, tôt ou tard ça viendra. Peut-être nous on sera plus là, mais les enfants qui sont en train de naître ici là, ils vont prendre le flambeau.
Merci infiniment, Onzoumane Sissoko, porte-parole de la coordination parisienne des sans-papiers, d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Et à vous, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Valeurs Mulciens, merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement.